Je lirai avec vous ce matin un passage de la vie de Jésus. Et on est dans une série de miracles. Les trois auteurs d'évangile, Matthieu, Marc et Luc, nous racontent cette histoire et la même est aussi une qui précède et une qui suit, et dans le même ordre, tous les trois. Trois miracles assez extraordinaires. Le premier, la tempête apaisée. Le deuxième, c'est un démoniaque qui a été délivré de sa légion de démons. Et le troisième, c'est la résurrection de la fille du chef de la synagogue, Jaïrus. Et c'est étonnant, tous les trois racontent dans le même ordre, c'est assez rare. Ces trois événements sont tout aussi extraordinaires l'un que l'autre. Je prendrai celui du milieu, celui du démoniaque qui a été guéri. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, je lirai donc dans l'évangile de Marc, chapitre 5, les versets 1 à 20. Donc, c'est juste après la tempête apaisée. Ils viennent, Jésus et ses disciples, de traverser le lac de Génézareth, le lac de Tibériade, et ils abordent sur l'autre rive. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Gérasiniens. Aussitôt que Jésus débarquait, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vient au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque ainsi qu'au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Ce sont des faits tout à fait déstabilisants, hors du commun, comme je disais tout à l'heure. Les circonstances, donc, les disciples viennent de traverser le lac de Tibériade. Et pourquoi ont-ils traversé? On remonte un tout petit peu avant. Au verset 35 du chapitre 4, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Dans le récit de Matthieu, il est dit « Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac ». Et c'est ainsi qu'il arrive dans ce territoire de Décapole. Ces deux faits m'ont interpellé. Jésus a quitté le territoire d'Israël, donc, traversé cette mer intérieure, pour aller se reposer. Lorsqu'il se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre de passer de l'autre côté. Jésus, pressé par la foule, souhaite se retirer pour se ressourcer. Il décide de traverser le lac de Tibériade vers la Décapole. Et nous voyons que la Décapole, c'est un territoire païen, puisque tout de suite, dès le début, il nous est dit où il y avait de grands troupeaux de porcs. Alors ça ne peut pas être tellement un territoire juif, s'il y avait de grands troupeaux de porcs. Ça c'est certain, c'est plutôt un territoire païen. Ce qui m'intriguait, c'est que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Dans, un peu plus loin, dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, verset 24, il est dit « Jésus s'en alla dans le territoire de Tyr, là aussi pour fuir la foule. Il entra dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. » Tyr, un territoire païen, une fois de plus. Et c'est là qu'il a rencontré une femme cananéenne, d'ailleurs, avec laquelle il y a eu cette histoire où il lui dit « Je veux bien être un petit chien et manger des miettes. » Constat étonnant, qui m'interpelle, c'est juste une remarque, hein, c'est pas le fond du récit, bien sûr, mais quand Jésus cherche du repos, il est étonnant qu'il se retire parmi des païens. Là, en Décapole, l'autre fois à Tyr, tout à fait hors du territoire, le peuple vers lequel il est envoyé par le Père le fatigue. Et ça m'a rappelé une parole du prophète Malachie. Vous fatiguez le Seigneur par vos paroles et vous dites en quoi le fatiguons-nous? Le peuple censé honorer Dieu, censé faire sa joie, a un comportement tel qu'il devient insupportable. Et que ce soit à l'époque de Malachie ou à celle de Jésus, il ne cesse de protester, mais en quoi fatiguons-nous? Est-ce que les choses ont beaucoup changé depuis? N'y a-t-il pas toujours davantage de plaintes que de vraies louanges qui montent du peuple de Dieu? Et pour donner du poids encore à ce fait, on peut noter les consignes contradictoires que Jésus donne aux bénéficiaires de son œuvre. Nous venons de lire dans ce chapitre 5, tout à la fin, il dit à l'homme qui vient d'être délivré, « Va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Étonnant le contraste, à peine plus loin dans la suite du récit, deuxième, résurrection de la fille du chef de la synagogue, que leur dit-il? C'est au verset 43 du chapitre 5, Jésus le recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne. Ça m'a toujours interpellé ces choses-là. Pourquoi au païen lui dit-il, va raconter dans ton village, dans ta famille, tout ce qui t'est arrivé. Et puis aux juifs, quand ils sont guéris, et c'est pas qu'une seule fois, on dit, taisez-vous, ne racontez pas ce que je vous ai fait. Au païen libéré, va raconter, au chef de la synagogue, ne dit rien. Autant Jésus encourage à diffuser sa bonne nouvelle parmi les païens, autant il laisse le peuple qui prétend l'honorer s'enfoncer dans l'endurcissement. Jésus recherchera sans relâche des cœurs ouverts pour recevoir sa parole, plutôt que ceux qui pensent être proche de lui, ceux qui se réclament de lui. Il y a de quoi nous interpeller dans cette première remarque, ce n'est qu'une remarque. Vous fatiguez le Seigneur par vos paroles, trop souvent. En entrant davantage dans le cœur du récit, il y a de quoi être impressionné par les faits. Je relis ces quelques versets du début, du verset 2, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux, personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Souvent il a dû les faire aux pieds, il avait été lié avec des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Sans cesse, nuit et jour dans les tombes, sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Je crois qu'il est clair qu'il existe un monde spirituel dangereux, aliénant, qui ne doit pas être traité à la légère. Souvent nous sommes mal à l'aise avec ce monde, il y a de quoi être mal à l'aise. Mais autant il y a risque de glisser vers une curiosité malsaine envers ce monde des ténèbres, envers le monde occulte, autant il y a inconscience à vouloir l'ignorer ou le minimiser. Notre société banalise toutes sortes de pratiques, voire de thérapies dont certaines sont loin d'être innocentes et sans conséquence sur notre santé psychique, que nous ne sommes peut-être pas assez attentifs. Et on est en lien avec cette réalité, un autre fait qui me frappe, à partir du verset 6. Donc cet homme, le titre dit, vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, et la réponse est étonnante si on la comprend bien, « Sors de cet homme, esprit impur. » Jésus lui disait à cet homme, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Jésus a compris tout de suite la situation. Nous n'aurions rien compris, nous. Si cet homme nous dit, « Que me veux-tu ? Laisse-moi tranquille. » Nous aurons dit, « Tiens, c'est bizarre, comme il réagit. » L'homme parle, mais Jésus a compris que ce n'est pas lui qui parle. Ce ne sont pas ses paroles. Ce qui sort de sa bouche ne vient pas de ses pensées, ne vient pas de lui. Quand cet homme parle à Jésus, Jésus répond, « Sors de cet homme, esprit impur. » Ce n'est pas lui qui parle. J'entends ce que tu dis. L'homme n'est plus que l'exécutant des esprits démoniaques qui le possèdent. L'homme semble parler de son propre chef, mais Jésus n'est pas dupe. Il répond, « Oui, sors de cet homme, façon de dire, je t'ai reconnu, malgré les apparences. » Oui, c'est la bouche de cet homme qui parle, mais j'ai reconnu qui tu es et tu n'as rien à faire en lui. La terrible réalité d'une vie sous l'emprise des esprits mauvais, une existence qui n'a plus aucune liberté, ni même de réalité humaine quand on voit comment il se comporte. Tout esprit ne venant pas de Dieu entraîne vers la déchéance celui qui ouvre sa porte. Ces différents faits ont de quoi alerter, sinon inquiéter. Ils sont en tout cas suffisants, je pense, pour nous inciter à veiller, à nous tenir sur nos gardes, d'une part dans une écoute suffisante du Seigneur, plutôt que dans nos propres pensées, et d'autre part, la vigilance face aux sollicitations extérieures. Mais ce ne sont que des remarques. Cette histoire contient d'autres faits, donnant des clés pour faire face. Et dans ce récit très sombre, jaillit aussi une lumière éclatante. C'est la confrontation entre deux mondes qui se disputent notre propriété, mais avec des armes très différentes et une finalité totalement opposée. Et il y a trois choses majeures que je retiendrai dans ce texte. La première, c'est que l'homme décrit ici est donc, nous l'avons dit, privé de tout moyen d'exprimer sa détresse, dépossédé même de son identité. Ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il voudrait dire, c'est ce qui sort de lui. Il ne peut crier comme les aveugles, les lépreux, les autres estropiés que nous voyons dans les évangiles. Vous savez, Jésus, aie pitié de moi, guéris-moi, libère-moi. Il ne peut pas. Et même au contraire, il lui dit « Laisse-moi tranquille ». Et ce n'est pas lui qui parle. Mais l'immense bonne nouvelle, c'est que Jésus sait, c'est que Jésus voit, c'est que Jésus connaît. Cet homme incapable de dire ce qu'il ressent, parce qu'il est prisonnier, ben Jésus sait. Il sait que c'est un homme prisonnier, prisonnier même dans ses paroles, prisonnier jusque dans ses pensées. Jésus a discerné une détresse que cet homme est incapable d'exprimer. L'important, ce n'est pas qu'il l'exprime, c'est que Jésus a vu sa détresse. Alors que l'homme, Jésus, vient de fuir la foule pour s'aérer un peu, Jésus, le Fils de Dieu, laisse jaillir son amour pour cette créature, cette création de Dieu, malmenée par l'ennemi. Il intervient par amour, même si ce païen, nous sommes en territoire païen, je vous rappelle, même si ce païen ne demandait rien, il ne demandait pas de délivrance, il en était incapable, incapable de chercher dans la bonne direction. Et pourtant Jésus a vu sa détresse et il répond avant même que cet homme soit capable de quoi que ce soit. Jean, dans sa première lettre, au chapitre 4, nous dit « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. » Première bonne nouvelle, c'est que Jésus sait, qu'il voit, même au-delà de ce que nous sommes capables d'exprimer. Deuxième chose, ce qui frappe dans ce récit, c'est l'autorité de Jésus. Autorité dont ses disciples viennent juste d'être les témoins. Au chapitre précédent, quand il y a cette tempête, il se réveilla, menaça le vent, dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent cessa, un grand calme se fit. Puis il leur dit « Mais pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent ?» Autorité sur la création, puisqu'elle lui était destinée de tout temps. Autorité, nous le voyons ici, sur les esprits mauvais. Il est révolu le temps où l'ennemi croyait l'éliminer, tout jeune bébé, en faisant une tuerie, si vous reprenez les évangiles. Il est révolu ce temps-là. Aussi le temps où Satan pensait le séduire, alors qu'il était devenu adulte. Maintenant, c'est Jésus qui donne ses ordres. Il donne ses ordres aux princes usurpateurs de ce monde. Jésus, dont la royauté universelle est en route, et plus rien ne peut l'arrêter. Dans les versets donc, de notre passage, versets 7 à 10, oui, on peut reprendre juste, quand cet homme dit « Ne me tourmente pas », et Jésus dit, verset 10, donc encore ces esprits qui disent « Il le supplie instamment de ne pas les envoyer hors du pays », c'est les esprits démoniaques qui supplient Jésus « Ne nous fais pas souffrir, ne nous envoie pas hors du pays », c'est lui maintenant qui donne les ordres, et ce sont les démons qui supplient Jésus. Le temps de l'arrogance est terminé. Face à la situation la plus désespérée, face à la puissance des forces démoniaques, Jésus est le maître. Les éléments déchaînés, les démons ligués s'inclinent quand il parle. Ils en viennent même à le supplier. Et puis vient la délivrance. Troisième point. Quand Jésus délivre, le changement est radical. Quand il y a eu la tempête, Jésus n'a pas fait diminuer un peu le vent. Un grand calme se fit, nous a-t-il dit. Et ici, que voyons-nous au verset 15 ? Ils vinrent auprès de Jésus, virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons. Ils le virent assis, vêtu, et dans son bon sens. Changement radical. Il n'est pas un peu moins agité. Il est vêtu, assis, dans son bon sens. Paul dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et là, nous avons vraiment une nouvelle création de cet homme. Le Seigneur ne désire pas, comme nous le croyons trop souvent, nous améliorer. Il ne désire pas nous faire progresser et nous rendre un peu meilleurs. Il veut nous transformer de fond en comble. Il y a une vie passée avec laquelle il faut rompre pour entrer dans la vie de Dieu. L'homme possédé n'a pas eu besoin de longues explications pour en être persuadé. Pour être persuadé que la vie avec le Seigneur valait bien l'abandon de sa vie passée. C'est une évidence. Mais c'est là qu'est justement notre difficulté. C'est là que nous atteignons une difficulté inhérente à notre nature. Un changement radical, c'est merveilleux. Mais notre nature entachée du péché a un problème avec cela. Dans notre récit, les habitants de la région, située à l'est donc du lac de Tibériade, dans cette décapole, sont des païens. Alors on passe vite sur leur réaction. Leur réaction, versets 16 et 17, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques ainsi qu'aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. On se dit, mais les pauvres, ils n'ont rien compris. Ils auraient dû être heureux. Je crains pour ma part qu'ils n'aient trop bien compris. Marc prend la peine de préciser que l'information qu'ils ont reçue a été objective et complète. À la fois, ils racontent, ils entendent à la fois ce qui était arrivé à l'homme, ce qui est arrivé au pourceau. C'est bien décrit dans ces versets 15 et 16. Ils ont entendu ce qui est arrivé à cet homme, ce qui est arrivé au troupeau de porcs. On aimerait d'ailleurs, au passage, que les médias aujourd'hui soient toujours aussi objectifs quand ils présentent des faits de société. Ils disent, ben voilà, tous les éléments. Il est arrivé ça, il arrive ça, il y a ceci. Mais pas trop d'illusions à avoir, ça ne servirait même à rien. On ne choisirait pas forcément la bonne direction. Bien sûr, on se dit à la perte de ces porcs, 2000 porcs, c'est une perte économique lourde. Et ça doit peser beaucoup dans la décision de ces gens de lui dire de partir. On a déjà 2000 porcs de perdus, qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire? Et que mangerons-nous demain? Assurer le revenu du lendemain prend le pas sur la question vitale de la libération des griffes du mal. Ferions-nous vraiment un choix différent aujourd'hui? Assurer le revenu du lendemain, ce n'est pas secondaire, c'est légitime. Le problème, c'est quand cette considération aveugle les priorités au point de choisir de préserver ses biens, quitte à vendre son âme. Alors là, il y a un problème. Quand la hiérarchie des valeurs s'inverse, nous sommes en danger de mort. Ces gens de Décapole n'ont pas été méchants avec Jésus. Ils sont d'une gentillesse avec. Ce ne sont pas des méchants. Ils le supplièrent qu'il s'en aille de leur territoire. S'il te plaît, va-t'en. Ils ne l'injurient pas. Non, ce sont des gens bien, ces gens de Décapole. Ils ont juste demandé qu'on les laisse tranquilles. Tranquilles avec leurs petites affaires. Tranquilles avec leurs petits démons. Quitte à en mourir. Parce qu'ils sont restés là, eux. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Ils suppliaient Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Alors Jésus les envoie dans les pourceaux qui sont en train de paître. Ces gens préfèrent rester avec leurs petits problèmes, petits ou grands, ouais. Trop dur de devoir envisager de renoncer à leurs habitudes et même à leur misère morale. Ils savent bien qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais quand même, ils ont l'habitude avec tout ça. Ils ont tellement l'habitude qu'ils ont envie d'y rester. Et c'est là qu'intervient le deuxième élément guidant leur choix, pas seulement le problème économique, on a perdu 2000 porcs quand même. Non, ce deuxième élément, il y a cet homme démoniaque qui est devenu calme et sensé. Ce n'est pas encourageant, non? C'est déstabilisant. Ce n'est pas sécurisant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il était fou. On savait au moins. Maintenant, on ne sait plus. On ne sait plus ce que c'est. C'est tellement énorme ce qui vient d'arriver que ces gens sont dans la crainte. Ils ne sont pas dans la joie. Ceux qui avaient vu ce qui était arrivé, donc, ce qui s'était passé, le racontaient. Ils se mirent à le supplier. Et au verset 15, il y avait « Ils furent saisis de crainte quand ils ont vu cet homme vêtu, assis, vêtu et dans son bon sens. » C'est ça qui leur a fait peur. C'est pas les 2000 pourceaux qui sont perdus. Cette délivrance, cet homme transformé, cette nouvelle création, c'est ça qui leur fait peur. Mais qui est ce Jésus? Que va-t-il bouleverser s'il reste parmi nous ? Nous nous connaissons, nous savons qui nous sommes, nous connaissons notre environnement, on sait ce qu'on a. On ne sait pas ce qui se passerait avec lui. On avait fini par s'habituer avec ce fou errant. Il nous faisait bien un peu peur, mais on avait pris l'habitude. Contrairement à ce que nous imaginons souvent, bien des miracles de Jésus ont suscité l'inquiétude et non pas l'enthousiasme. Chacun étant inconsciemment bousculé. Et si jamais, bon, c'est formidable ce qu'il a fait, mais si jamais il se tournait vers moi, qu'est-ce qui m'arriverait ? Tout n'est pas formidable dans ma vie, mais je m'en suis accommodé jusqu'ici. Une petite amélioration, oui, c'est bien. Mais bouleverser le cours de ma vie pour que je ne le contrôle plus, alors ça c'est autre chose. Alors Jésus, éloigne-toi, s'il te plaît, juste un petit peu. Il y a très longtemps, Dieu déclarait déjà, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Beaucoup de ceux qui ont entendu cette parole ont souhaité faire le bon choix. Tout à fait, oui, choisir la vie. Tout en demandant en même temps à Dieu de ne pas trop se mêler de leurs affaires. C'est-à-dire, en pratique, de rester libre de leurs petits arrangements avec l'autre, avec l'ennemi. Comme je disais au début, comme dit le prophète Malachi, vous me fatiguez, répond Dieu. Mais vous que j'ai créé, vous que j'ai aimé, je vous aime et je vous aimerai encore, je vous aimerai toujours. J'ai offert le sang de Jésus, mon bien-aimé, pour vous purifier de vos péchés, pour vous transformer, pas pour faire de vous de petites choses améliorées, mais pour faire de vous des créatures nouvelles, vous libérer totalement. Venez à lui et il vous libérera de l'ennemi. Voulez-vous vraiment être une nouvelle création, libre, prête à l'aventure éternelle ? Ou préférez-vous vos chaînes, petites ou grandes ? Ça reste l'interrogation permanente du Père envers nous et de Jésus aussi qui nous attend. Alors je vous propose que nous convenions de la prière. Oui Seigneur, ta parole nous dit par la bouche de l'apôtre Paul aussi dans l'épître aux Galates, c'est pour la liberté que je vous ai libéré, que vous êtes libéré. Et Jésus l'a dit aussi pendant sa vie sur cette terre, je vous rends libre, tu veux nous libérer Seigneur pour vivre une vie de liberté. Tu ne veux pas nous libérer de notre péché simplement pour être purifié devant toi, mais pour nous donner une autre vie. Nous sommes obligés, Seigneur, de reconnaître que trop souvent, nous acceptons ce sacrifice que tu as fait pour simplement couvrir notre péché et continuer quand même à vivre une petite vie intermédiaire qui ne choisit pas vraiment. Mais Seigneur, c'est pour la liberté que tu as voulu nous libérer, pas seulement pour effacer notre péché. Alors accorde-nous, Seigneur, d'avoir ce courage de faire le pas, d'accepter d'être libéré, de vivre la vie libre que tu veux nous offrir, de croire que l'inconnu avec toi vaut mieux que le connu de notre quotidien. Seigneur, fais-nous cette grâce de croire cela, de le capter, de le faire nôtre, et que nos vies soient vraiment de nouvelles créations. Amen. Amen.